T est à 9,50€ par mois et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Au cœur de l'histoire, c'est juste après les infos. Vous écoutez Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, on retrouve Brandon Ouarette pour les informations. Bonjour Brandon.
Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le Premier ministre en déplacement dans la Manche aujourd'hui. Après une foire au bulot ce matin, Gabriel Attal s'est rendu sur une exploitation maraîchère. Le dialogue est contenu et continu et permanent depuis plusieurs mois avec les agriculteurs, a-t-il affirmé. Une déclaration qui intervient quelques heures après une série de 14 mesures dévoilées par le gouvernement sur fond de colère des agriculteurs. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, a réagi à ces annonces. Il était l'invité aujourd'hui de Lénaïque Monnier dans Europe 1 Midi Week-end.
La bonne annonce qui était réclamée depuis longtemps, c'est sur la retraite agricole. Mais ça, comme on dit toujours, c'est pas une réponse qui est dans l'immédiateté des besoins de l'agriculture. Pour les 5 millions d'euros de trésorerie sur 400 000 agriculteurs, ça fait 12,50€ par agriculteur. Je vous laisse juger. Et sur l'aspect des stockages d'eau, de l'élevage, des cofitos, on a un report, mais on n'a pas de choses très classiques. Il y a une centaine de réserves qui doivent être faites. Ça, c'est une chose, mais on ne sait pas où, on ne sait pas le volume. Ça reste toujours très évasif. C'est pas ça qui va changer la vie d'un agriculteur qui n'arrive pas à mettre les bouts aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est la fin de la crise en réglant les problèmes. Mais là, c'est pas nous qui avons demandé ça. Hein. C'est pas ce qu'a demandé la coordination rurale.
Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale au micro de Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et la semaine prochaine, le président de la République rencontrera les principaux syndicats agricoles. La réunion est prévue à l'Élysée. Dans l'actualité également, la fin du blocus à Sciences Po. Les étudiants ont quitté les lieux hier soir. La direction de l'établissement a accepté une partie des revendications des manifestants, notamment la fin des sanctions pour ceux qui ont participé à des blocages ces derniers jours. Ils étaient quelques centaines mobilisés depuis mercredi dans le sillage des université américaine. Ce midi, Gabriel Attal, durant son déplacement dans la Manche, a évoqué un spectacle navrant tout en dénonçant les dérives d'une minorité. Encore un peu de patience pour les usagers de l'autoroute A13. La portion entre Paris et Vaucresson est toujours fermée à la circulation dans les deux sens depuis le 18 avril. La circulation ne reprendra pas le 1er mai. La partie fissurée à l'origine du tronçon aurait encore bougé. Aucune date de réouverture n'a été pour l'instant annoncée. Une réunion doit se tenir ce lundi 29 avril. La flamme olympique désormais française depuis hier a mis le cap sur Marseille à bord du mythique trois-mâts Belém. Arrivée prévue le 9 mai au Vieux-Port, 150 000 personnes seront au rendez-vous pour accueillir la flamme. Et c'est le nageur Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, qui sera le premier à porter la flamme olympique à son arrivée sur le sol français. Le sport, c'est aussi le rugby avec la 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations féminins. Une finale entre la France et l'Angleterre. Le coup d'envoi est prévu à 17h45 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux avec un record d'affluence à la clé.
Europe 1.
Europe 1 15h03, au cœur de l'histoire, c'est avec Virginie Giraud.
Merci Brandon Ouarette, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'information.
Europe 1. 15h, 16h,
au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end sur Europe 1 pour plonger ensemble au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de justice, ou plutôt d'injustice. Je vais vous raconter l'histoire de deux personnages à qui on a intenté un procès. Mais ces deux personnages ne pouvaient pas vraiment se défendre, à moins de mentir. Le premier procès que je vais vous raconter est celui de Galilée. Nous sommes au XVIIe siècle et les esprits les plus brillants osent observer le monde pour le comprendre. Et ce qu'ils voient n'est pas toujours en accord avec les dogmes religieux. Galilée est un intellectuel italien. Grâce à sa nouvelle lunette astronomique, il regarde le ciel, le mouvement des étoiles et des planètes. Tout ça bouge à une vitesse vertigineuse quand on y pense. Et tout ça tourne, mais à l'évidence, pas autour de notre planète. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Pour l'Église, c'en est trop, ça remet en cause tous les récits de la création. Galilée finit devant un tribunal de l'Inquisition, cette juridiction chargée de statuer sur les hérétiques. Le savant sera-t-il capable de mentir pour sauver sa peau ? Le second procès que je vais vous raconter est celui de Jeanne d'Arc, notre sainte patronne de France. Cette jeune fille s'est engagée auprès de son dauphin pour le faire sacrer et bouter les Anglais hors du royaume alors que la guerre de Cent Ans fait rage. Hélas, après avoir été faite prisonnière, elle est remise aux Anglais. Un tribunal va alors l'interroger pour savoir si elle est une sorcière ou bien si c'est Dieu qui l'anime. Mais ce procès est en réalité une charge politique contre Charles VII. Jeanne, vous le savez, n'a aucune chance de s'en sortir, mais savez-vous comment le piège s'est refermé sur elle ? Eh bien, vous le saurez dans la seconde partie de l'émission. Pour l'heure, on commence avec Galilée. Laissez-moi vous emmener en Italie, là où ce savant regarde vers le ciel.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes en Italie à l'été 1609. À 45 ans, Galileo Galilei, professeur de mathématiques de l'université de Padoue, située à une trentaine de kilomètres de Venise, présente fièrement au sénateur de la Sérénissime qui l'entoure un instrument révolutionnaire, une lunette astronomique. Il espère impressionner l'honorable assemblée car il compte sur son invention pour gagner l'argent dont il a bien besoin pour poursuivre ses recherches et nourrir sa famille. Alors, il distribue les sourires et les poignées de main aux hommes qui l'ont accompagné en haut du campanile de l'église Saint-Marc de Venise, qui domine la ville d'une centaine de mètres. Il n'y a pas d'escalier dans le campanile. L'ascension se fait par une rampe en pente douce. Par cette canicule, ces bons bourgeois vénitiens dégoulinent de sueur et soufflent comme des forges. Ce Galilée leur a promis des merveilles, il a intérêt à tenir parole. Le doge de Venise, Leonardo Donna, qui est le magistrat suprême et le chef de la République de la ville, est un ami de Galilée et son protecteur. Il a donc le privilège d'expérimenter le nouvel instrument d'optique fabriqué par Galilée en personne. Les uns après les autres, les sénateurs collent un œil derrière le verre poli sans oublier de fermer l'autre. Et là, c'est comme un miracle. La coupole et la façade de l'église Sainte-Justine de Padoue, qui se trouve à 32 km de là, semblent toutes proches. On pourrait presque compter les brins d'herbe du Prato della Valle qui jouxte l'église. L'île de Murano, un peu plus loin dans la lagune, paraît n'être qu'à 300 mètres et non à 2 km. Et maintenant, on voit les gens qui entrent et sortent de l'église San Salvatore. Galilée jubile. Il a émerveillé les sénateurs vénitiens et son salaire vient d'être multiplié par deux. Il peut maintenant se consacrer à son autre lunette, celle qu'il tourne vers le ciel, et c'est ainsi qu'il verra bientôt ce que personne n'a jamais vu avant lui. Galilée est originaire de Pise, en Toscane. À l'université de Padoue, il n'est pas un professeur comme les autres. Il ne se contente pas de commenter les savants anciens comme on le fait à l'époque. Galilée observe attentivement ce qui l'entoure. Il pense que les lois physiques doivent être fondées sur l'expérience. Et parfois, ces expériences contredisent les auteurs anciens. Dans l'intimité de son atelier, il a mis au point une incroyable lunette astronomique. Il n'est pas l'inventeur de la lunette qui a été fabriquée depuis le tout début du XVIIe siècle par des opticiens hollandais, mais la leur n'est pas très précise. Celle de Galilée grossit près de 30 fois. C'est une avancée technique formidable qui lui permet de voir les reliefs de la Lune. Elle n'est pas lisse. Il y décèle des reliefs, des cratères, des crêtes. Et Saturne ? Figurez-vous qu'elle est entourée d'anneaux. Oui, il les a vus. Et autour de Jupiter, il y a plusieurs lunes qui gravitent. Grâce à cet outil révolutionnaire, Galilée confronte ses hypothèses sur le cosmos à la réalité et tire des conclusions objectives. Alors, d'observation en observation, poussé par l'enthousiasme des découvertes, il entre dans la grande bataille du ciel qui fait alors rage dans les milieux scientifiques. Il veut prouver que l'héliocentrisme est vrai. C'est le Soleil qui se place au centre de l'univers et non la Terre. Mais au XVIIe siècle, l'Église catholique adhère à une théorie du système solaire héritée d'Aristote, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ et défendu par l'astronome Ptolémée après lui. Selon cette théorie, la Terre est au centre de l'univers et les astres tournent autour. C'est ce qu'on appelle le géocentrisme. Cette vision du cosmos est née de l'observation à l'œil nu du mouvement des étoiles et du soleil. Le soleil semble se lever et se coucher, donc tourner autour de la Terre, Et le géocentrisme, qui place la Terre au centre de l'univers, convient parfaitement à l'Église, puisque selon l'Ancien Testament, Dieu a d'abord créé la Terre, centre de son attention, et puis ensuite quelques luminaires pour l'éclairer. L'homme créé à son image est lui aussi au centre du monde, sur la Terre. Cette théorie était unanimement partagée jusqu'à ce qu'un astronome polonais la contredise. En 1543, Nicolas Copernic révolutionne l'astronomie avec l'héliocentrisme. Les planètes, dont la Terre, tourneraient autour du Soleil qui est au centre de l'univers. Cette conclusion n'est pas le fruit de son observation, car Copernic ne bénéficiait pas d'outils assez puissants pour observer le ciel. Elle provient de calculs mathématiques. La lunette astronomique permet à Galilée de voir ce que Copernic avait compris. Lui, il voit les planètes tourner autour du Soleil. Il va donc pouvoir prouver par l'expérience la théorie mathématique de Copernic. Il sait bien sûr que ses conclusions contredisent les thèses de l'Église, mais il se sent à l'abri des attaques grâce à ses hautes relations. Il est en effet en très bon terme avec le cardinal Barberini de Florence, qui s'intéresse beaucoup à son travail. Galilée publie en 1610 un ouvrage en latin diffusé dans toute l'Europe, « Le messager des étoiles ». Il y décrit ses récentes découvertes. Les 500 exemplaires du premier tirage se vendent en quelques semaines. Les scientifiques de l'époque l'accueillent avec enthousiasme. Il reçoit le soutien du grand-duc de Toscane, Côme de Médicis, qui a été son élève quelques années plus tôt et n'a jamais cessé de l'admirer. C'est pourquoi Galilée baptise les quatre planètes de Jupiter, nous disons aujourd'hui ces quatre lunes, les astres médicéens. Il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto. En donnant le nom de Médicis à cette découverte, Galilée flatte ses protecteurs. Les Médicis sont tout puissants à Florence et en Italie. Et même la reine de France, l'épouse du roi Henri IV, est une Médicis. Mais Galilée sait bien que ce soutien ne suffit pas. L'Église n'aime pas qu'on remette en cause sa perception de la création divine et peut s'attaquer à ceux dont les théories la gênent. Par prudence, l'astronome toscan présente d'abord ses découvertes au père Clavius, un jésuite chef des astronomes du pape. Et ça va pas être simple. Clavius, qui a déjà eu vent des découvertes de Galilée, a déclaré qu'il ne pourrait voir les planètes avec la lunette astronomique que si on les faisait entrer dedans. On peut dire qu'il a un certain sens de la formule. Mais le père Clavius n'est ni un idiot ni un hypocrite. Quand, grâce à la lunette, il voit les quatre astres qui tournent autour de Jupiter, il est convaincu. Il invite donc Galilée à rendre visite aux astronomes du Vatican qui s'enthousiasment pour ses découvertes. Le cardinal Bellarmin, premier théologien de l'Église, cherche alors à connaître l'opinion des astronomes du Vatican. Sans hésiter, il confirme les observations faites par Galilée. Mais bien qu'il l'ait parfaitement compris, ils ne disent rien de l'héliocentrisme qui sous-tend toutes les thèses de l'astronome toscan. Les jésuites savent qu'il y a contradiction entre la position officielle de l'Église et l'héliocentrisme, mais ils ont jusqu'à présent trouvé un compromis grâce aux conclusions de Tycho Brahe. Cet astronome danois propose une synthèse entre Ptolémée et Copernic. Suivez bien l'explication, je parie qu'elle va vous amuser. Brahe met la Terre au centre de l'univers. Le Soleil tourne autour de la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Ah, il fallait y penser à celle-là. Le problème, c'est que depuis les observations de Galilée, le doute s'est installé dans bien des esprits. Et si Copernic avait raison? Et si la Terre n'était pas au centre de l'univers? Le cardinal Bellarmin n'est pas convaincu et demande à l'Inquisition un rapport secret sur Galilée. Et là, ça commence à chauffer pour notre astronome qui n'a pas que des partisans. Pour rappel, l'Inquisition est un tribunal religieux qui a pour mission de lutter contre les hérétiques allant des peines spirituelles à la peine de mort. Les bûchers de sorciers, c'est leur spécialité. Tenez, par exemple, une dizaine d'années plus tôt, un autre savant italien a soutenu des thèses contraires à la doctrine catholique. Il s'agit de Giordano Bruno. Lui aussi s'appuie sur les théories de Copernic pour prouver l'héliocentrisme. Après 8 ans de procès, Giordano Bruno a refusé de se rétracter. En termes religieux, on dit qu'il ne vient pas à récipiscence. Il n'a pas voulu reconnaître sa faute. Et il ne veut pas non plus se repentir. Et que croyez-vous qu'il est arrivé? Le savant a été brûlé vif le 17 février 1600 sur le Campo dei Fiori à Rome. Et l'artisan de cette condamnation, c'est le cardinal Bellarmin qui se penche maintenant sur l'affaire Galilée. Galilée est maintenant surveillé par le cardinal Bellarmin. C'est simple, il doit abandonner les théories coperniciennes et tout ira bien. L'Église interdit que l'on parle d'héliocentrisme. Mais Galilée est incapable de renoncer à l'évidence. Et cette obstination va lui coûter cher. Je vous raconte tout ça dans un instant, alors restez avec nous sur Europe 1.
Voyagez au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage ?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches ?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment ?
D'abord, on applique le sérum Lift Active B3. Ensuite, la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets ?
Eh bien, après 2 mois d'utilisation, les taches diminue de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur.
Mm-hmm.
Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache ?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
Aujourd'hui, 3 millions de Français se privent de produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Pourtant, se sentir propre, c'est aussi vital que de se nourrir. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Lucas, fraîchement préparé, va confiant à son entretien d'embauche. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Heures, 16 heures, au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Virginie Giraud.
Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, je vous raconte le destin de personnages qui ont eu des procès injustes. Avant d'évoquer Jeanne d'Arc, on finit notre récit sur Galilée. Le savant italien peut encore échapper au pire s'il suit les conseils de l'Église, renoncer aux nouvelles théories héliocentristes. L'Inquisition, qui a condamné les théories de Copernic, mis ses livres à l'index et interdit de discuter de l'héliocentrisme, ne condamne pas formellement Galilée. Il écope d'un simple avertissement en 1613. Mais le cardinal Bellarmin, le bras droit du pape, ne plaisante pas. Galilée ne doit plus parler des théories coperniciennes. Il doit s'en tenir aux mathématiques et à la physique et ne pas s'aventurer à commenter les saintes écritures. Ça, c'est le travail des théologiens. Mais comment faire ? Comment faire pour ne pas tirer des conclusions évidentes d'observations approuvées par les théologiens de Rome eux-mêmes ? Galilée va devoir se débrouiller car l'Inquisition rend un décret selon lequel l'idée que la Terre tourne autour du Soleil est idiote, absurde, philosophiquement et formellement hérétique car elle contredit explicitement la doctrine de la Sainte Écriture. Et pourtant, mu par sa quête de vérité, Galilée poursuit ses observations et sa défense des thèses de Copernic. Son but n'est pas de contredire l'Église, car il est lui-même très croyant, mais c'est aussi un scientifique qui veut comprendre et expliquer le monde qui l'entoure. Il doit donc démontrer que la foi n'est pas incompatible avec les théories coperniciennes et que l'Inquisition a tort de condamner l'héliocentrisme, car la science prouve son existence. Heureusement pour notre savant, le nouveau pape qui est élu en 1623 est un de ses amis. C'est le cardinal Barberini. En avril 1624, Galilée a rendez-vous avec celui qui est devenu le pape Urbain VIII. Il est très impressionné par les fastes du Vatican, mais il est inquiet. À présent que son ami est l'élu de Dieu sur terre, va-t-il encore lui accorder sa protection ? Les gardes suisses ouvrent l'immense porte qui donne sur les appartements du nouveau souverain pontife. Galilée entre, fait quelques pas, les yeux baissés, puis s'agenouille, comme le veut le protocole. Le pape, tout de blanc vêtu, s'avance vers lui et le relève avant que ses genoux ne touchent le sol. Quel honneur pour Galilée. Urbain VIII lui renouvelle son amitié et lui témoigne même de l'admiration. Il a tout son soutien également, car selon lui, l'Église doit être à la pointe de l'éducation, de la science et de la philosophie. Et pour ça, il faut libérer le savoir. Le pape explique à Galilée qu'il souhaite laisser les savants développer leur thèse. Galilée peut exposer les théories de Copernic. Il lui est simplement interdit d'affirmer qu'elles sont vraies. Car, dit le pape, ce qui est réel n'est pas forcément la vérité. Oui, vous avez bien compris cette phrase étrange. C'est l'Église et non les savants qui doivent décider de la vérité à l'époque. Il faut séparer la science et la théologie. Les yeux dans les yeux, calmement, le pape prévient Galilée. Si au cours de ses recherches, il découvre la preuve irréfutable que Copernic a raison, il ne devra pas s'en parler. C'est au nom de leur amitié qu'il le lui dit. Il lui commande aussi un livre qui devra exposer les deux systèmes, celui de Ptolémée et celui de Copernic, mais sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Cette gymnastique intellectuelle qui semble si naturelle au pape déroute complètement Galilée. En 1632, Galilée publie son dialogue sur les deux systèmes du monde qu'il dédie au pape. Le livre a reçu l'imprimatur, c'est-à-dire l'autorisation d'être publié, sans laquelle aucun livre ne peut paraître. Tout ce que l'Europe compte de scientifiques s'enthousiasme pour l'ouvrage. Mais Urbain VIII est très déçu. Le savant n'a pas respecté son contrat. Galilée préfère affirmer plutôt que suggérer, comme il le lui a demandé. En plus, il laisse entendre que les partisans du géocentrisme sont tous des idiots. Cerise sur le gâteau, l'ouvrage n'est pas rédigé en latin, comme les savants ont l'habitude de le faire à l'époque parce que le latin est la langue internationale des érudits. Galilée a écrit en italien et ce faisant, il rend son livre compréhensible par tous les lettrés du peuple. N'importe qui peut avoir accès à ses thèses hérétiques. Pour le pape Urbain VIII, c'en est trop. Il se sent trahi et ridiculisé à travers le personnage de Simplicio, le simplet, un idiot qui défend les thèses de Ptolémée. Il abandonne Galilée qui doit donc affronter seul les foudres de l'Inquisition. Galilée s'est cru au-dessus des lois. Il a eu tort. L'Inquisition veut saisir tous les exemplaires du livre avant sa diffusion, mais n'y parvient pas. Elle le fait alors interdire, et Galilée est mis en accusation le 1er août 1632. S'il ne se rétracte pas, il peut être condamné au bûcher comme Giordano Bruno 32 ans auparavant. Galilée, âgé de 70 ans, est emprisonné. Ses juges l'accusent de soutenir les théories de Copernic, mais il s'en défend, sans pour autant reconnaître qu'elles sont fausses. Ses juges veulent aussi faire de lui un hérétique, un ennemi de l'Église. Là encore, Galilée se défend. Ses travaux ont pour but d'aider l'Église à comprendre le monde tel que la science le décrit. Et si la science contredit l'Église, alors il faut que l'Église le reconnaisse avant que les idées ne se propagent et que les savants ne se dressent contre son autorité. Malgré l'évidence de son raisonnement, Galilée ne convainc pas. Le 22 juin 1633, dans le couvent Santa Maria sopra Minerva, le vieux Galilée, vêtu d'une simple chemise, doit s'agenouiller devant ses juges et toute une assemblée de prêtres. Une main tremblante posée sur la Bible, il lit un texte rédigé à l'avance. Galilée jure qu'il a toujours tenu pour vrai, tient encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu, tiendra pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Il reconnaît que malgré l'injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre de l'univers et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre de la création et se déplace, il a publié un livre qui démontre le contraire. Le texte qu'il doit réciter dit qu'il abjure et maudit ses erreurs d'un cœur sincère et d'une foi non feinte. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à un savant de jurer qu'une chose fausse est vraie. Vous pouvez imaginer ses tripes qui se tordent et sa gorge qui se serre. Mais c'est ça ou la mort. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? On dit qu'en sortant du tribunal, il murmure pour lui-même une phrase qui est entrée dans l'histoire. « Et pour si, muove. » Et pourtant, elle tourne. Cette sentence si forte est probablement apocryphe, inventée sur le tard pour mieux forger la légende de Galilée. Galilée a donc renoncé officiellement à l'héliocentrisme. Il n'a plus le droit de parler de Copernic et de ses idées et il est condamné à la prison à vie. Mais après un an d'emprisonnement, le pape transforme cette condamnation en une assignation à résidence. Il ne doit pas quitter sa maison de Florence, ni même recevoir des visiteurs importants sans la présence d'un inquisiteur. À présent, il continue à écrire, mais fait publier ses écrits à l'étranger. Infatigable, il poursuit ses recherches. Ce n'est pas une condamnation qui mettra fin à sa soif de découverte. Pourtant, reclus chez lui, le vieux savant obstiné souffre beaucoup. Tandis que ses livres posent les bases d'un renouveau intellectuel à travers l'Europe, ses yeux peu à peu l'abandonnent. Il devient complètement aveugle quelques années avant sa mort en 1642 près de Florence. Dès 1741, l'intégrale des œuvres de Galilée revient en odeur de sainteté. Il faut cependant attendre 360 ans après sa condamnation pour qu'en 1992, le pape Jean-Paul II reconnaisse officiellement que Galilée avait raison. Dernière consécration en date, le pape Benoît XVI, qui est considéré comme un grand théologien, donne même son accord pour la réimpression de son œuvre. Galilée a été persécuté et pourtant ses recherches fondent les bases des sciences modernes au XVIIIe siècle. Changement d'époque et de lieu. Dans un instant, je vous raconte le procès de Jeanne d'Arc, un procès religieux et hautement politique. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergy.
Balade en France.
Demain, à partir de 11h, nous nous arrêterons dans l'Essonne, à Milly-la-Forêt, pour visiter l'ancienne demeure de Jean Cocteau. Pour la séquence plein air, direction Besançon, pour une promenade en bateau électrique, où nous apprendrons aussi à passer les écluses.
Balade en France. William Lémergy sur Europe 1.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non, vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative de Noirmoutier, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1. On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Thomas Cosse, boucher à Paris.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de procès injuste au cœur de l'histoire. Après le procès de Galilée, je vous raconte le procès de Jeanne d'Arc. L'histoire de France aurait été bien différente sans elle. Alors qu'elle a permis à Charles VII d'être sacré, la voilà maintenant aux mains des Anglais qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire passer pour une sorcière.
Depuis l'aube de ce 30 mai de l'an de grâce 1431, la foule se rassemble au pied d'un bûcher qui s'élève sur la place du marché de Rouen. Dans la cité normande, occupée par les Anglais, personne ne veut rater le spectacle. Ce n'est pas tous les jours qu'on brûle une sorcière, et pas n'importe laquelle. Celle-là même dont tout le monde parle, celle-là même qui a fait couronner le roi Charles il y a à peine 2 ans. À 9h du matin, on se bouscule déjà sur la place quand arrive Jeanne debout sur la charrette des condamnés. Elle porte une longue tunique blanche. Des hommes d'armes tentent de calmer les badauds qui ne doivent pas troubler l'exécution. Bientôt, tous se taisent. Jeanne descend de la charrette et monte lentement vers le bûcher. Un prêtre l'entend en confession. Les membres du tribunal et les Anglais qui l'ont condamné ont pris place sur une estrade. L'évêque Cochon se lève dans le silence et lit la sentence. Le bourreau attache Jeanne au poteau, les épaules, les hanches, les jambes. Son vêtement rouge sang jure avec celui si blanc de Jeanne. Puis, il met le feu au fagot et il s'éloigne. Aussitôt, les flammes crépitent et une dense fumée enveloppe le corps de Jeanne. Alors qu'on l'entend crier le nom de Jésus, l'évêque Cochon et ses sbires quittent le spectacle. Pas question de supporter jusqu'au bout le supplice de la petite Lorraine, d'autant plus que la foule est en pleurs. Les hommes d'armes maintiennent les spectateurs loin du corps qui se consume doucement, puis les cendres sont dispersées dans la Seine afin que personne ne transforme ses restes en reliques. La tristesse accable Rouen endeuillé. Ils ont le sentiment confus de s'être trompés. La pucelle ne pouvait pas être une sorcière. Il y avait, pendant qu'elle brûlait, une atmosphère étrange, divine. Seuls les Anglais se réjouissent. Ils en ont enfin fini avec cette pucelle de cauchemar. Mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Jeanne d'Arc naît à Domrémy, probablement en janvier 1412, dans une famille de paysans lorrains aisés. Comme tous les enfants de l'époque, elle travaille avec ses parents à la ferme. Elle est pieuse et obéissante. Pour autant, elle est très touchée par les ravages des guerres qui ensanglantent son pays. Depuis 1337, le royaume de France est en guerre contre l'Angleterre. Le roi d'Angleterre, descendant lointain d'Henri Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, revendique le trône de France et occupe même une bonne partie du royaume. Chaque dimanche à la messe, Jeanne prie pour que Charles VI, le vrai roi de France, boute les Anglois hors du royaume. Mais on dit qu'il est fou, incapable de lever une armée et de se battre. Elle n'a que 13 ans quand elle entend les voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite lui parler au nom de Dieu. Elle doit libérer le royaume des envahisseurs étrangers et placer sur le trône le dauphin Charles. De nos jours, le fait d'entendre des voix nous évoque une pathologie mentale ou une manipulation. Mais le rapport au divin est très différent du nôtre au XVe siècle. À cette époque, ça ne semble pas fou du tout d'entendre des voix. À l'issue d'une incroyable épopée militaire qui n'est pas au cœur de notre récit aujourd'hui, Jeanne, qui a tout juste 17 ans, parvient à faire couronner le dauphin à Reims en juillet 1429. Oui, Jeanne était une chef de guerre. Elle était respectée par ses hommes et aucun n'aurait osé un geste déplacé sur elle. Il l'aurait suivie au bout du monde, jusqu'à la victoire finale sur les Anglais. Mais la chance militaire abandonne Jeanne après le sacre. Elle échoue à Paris où elle est blessée. Et le 23 mai 1430, au siège de Compiègne, Jeanne est capturée. À Alors je fais ici une petite pause, parce qu'il faut bien comprendre qu'elle n'est pas capturée par les Anglais directement, mais par leurs alliés, les Bourguignons. En ce début de XVe siècle, deux branches cadettes de la famille des Valois se battent pour le pouvoir. Il y a d'un côté les Armagnacs, et de l'autre, les Bourguignons. Leur rivalité aboutit à une guerre civile alors même que la guerre contre les Anglais dévaste le pays. Quelques années avant l'épopée libératrice de Jeanne, les Bourguignons ont choisi de se ranger du côté des Anglais et de reconnaître Henri VI comme roi de France. Vous imaginez bien que Jeanne les déteste. À ses yeux, ces Bourguignons sont des traîtres. Durant des mois, les Bourguignons qui détiennent Jeanne et les Anglais se livrent à des tractations sur le sort de la jeune fille. Elle essaie plusieurs fois de s'évader. Le roi de France, quant à lui, ne semble pas se préoccuper de son héroïne. Finalement, Jeanne est vendue aux Anglais pour 10 000 livres tournois, une très belle somme puisque ça ferait plus d'un million d'euros aujourd'hui. Les Anglais la transfèrent à Rouen, la cité normande qu'ils contrôlent encore. C'est là qu'elle va être jugée. Jeanne est enfermée dans l'ancien château du roi Philippe Auguste, qui est alors la demeure du comte de Warwick, le gouverneur d'Henri VI. C'est un château médiéval défensif, très imposant avec ses 10 tours, ses murailles et ses remparts. En passant le pont-levis du château, en cette veille de Noël 1430, en voyant ses gardes cuirassés, Jeanne ne peut s'empêcher de frissonner, elle qui désormais ne porte plus d'armure. Mais elle a confiance. Elle est l'envoyée de Dieu et du roi. Il ne peut rien lui arriver. Jeanne est mise au fer dans une cellule immonde et humide. Elle n'a qu'une paillasse pour s'étendre. Et il fait si froid. Par une minuscule meurtrière, elle ne voit de la campagne normande que le brouillard qui la recouvre à perte de vue. Elle est seule et sans aucune défense dans cette cellule étroitement gardée. Ses geôliers ne cessent de l'épier, jour et nuit. Ils se moquent d'elle et l'insultent. On dit que certains tentent de la violer sans y parvenir. Beaucoup d'hommes qui l'ont connue racontent qu'elle avait quelque chose de presque surnaturel qui les tenait à distance. Et puis les Anglais la craignent aussi. Pour eux, c'est une sorcière, une créature infernale. Alors on va faire une petite pause ici dans notre récit pour répondre à une question. Pourquoi cette paysanne devenue chevalier est-elle si importante aux yeux des Anglais ? Pourquoi l'acheter si cher, puis la juger ? Pourquoi ne pas tout simplement la laisser croupir dans sa cellule jusqu'à ce que mort s'en suive ? Eh bien parce que la Pucelle est un enjeu politique important pour les Anglais. Un procès contre la championne de Charles VII est une aubaine. Vous allez comprendre pourquoi. Les Anglais ne choisissent pas de faire juger Jeanne par une cour laïque comme ça devrait être le cas pour une prisonnière de guerre. Ils optent pour une cour ecclésiastique qui devra démontrer qu'elle est une sorcière, donc une hérétique. Depuis la bulle du pape Jean XXII en 1326, les sorciers et sorcières sont assimilés à des hérétiques. Le calcul des Anglais est le suivant. Si Jeanne est déclarée comme telle, le roi Charles VII, qui a été sacré grâce à elle, sera discrédité. Le procès de Jeanne s'ouvre le 9 janvier 1431 devant une assemblée de religieux et de théologiens. C'est un procès ecclésiastique traditionnel qui suit les règles de l'Inquisition. Mais plusieurs membres du tribunal sont choisis parmi les partisans du roi d'Angleterre. Le président du tribunal a notamment un pouvoir très important. Il s'agit de Pierre Cochon, évêque et comte de Beauvais, tout acquis à la cause des Anglais. L'évêque Cochon est un individu étrange. Est-il convaincu que Jeanne est une sorcière ? Il dit que sa mission est de la sauver pour que Dieu lui pardonne. Mais est-ce qu'il y croit lui-même ? En effet, le but premier d'un procès d'inquisition n'est pas de mettre à mort. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une condamnation à mort signifierait que le procès n'est pas parvenu à faire entendre raison à l'accusé qui s'obstine dans l'erreur. Ce qu'il faut, c'est que Jeanne reconnaisse ses fautes et rentre dans le giron de l'Église. Et il y a du travail, car Jeanne est déclarée, je cite, « sorcière, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice des malins esprits, conjuratrice, superstitieuse, adonnée aux arts magiques, mal-pensante dans la foi catholique, sacrilège, idolâtre, apostate, maudite et malfaisante ». La première phase du procès permet de trouver des chefs d'accusation. Jeanne est accusée d'être sortie de sa condition de femme en s'habillant en homme, ce qui est interdit. Elle est aussi sortie de sa condition de chrétienne obéissante. Elle prétend être en contact direct avec Dieu, ce qui est absolument intolérable pour l'Église, qui se veut l'intermédiaire entre Dieu et la communauté des croyants. Pas question d'en faire un mystère. Jeanne d'Arc ne pourra pas échapper à ses juges. Et pourtant, pendant sa fin terrible sur le bûcher, il va se passer des choses étonnantes. On pourrait même dire surnaturelles. Je vous raconte tout ça dans un instant. Reste ensemble sur Europe 1.
15h, 16h.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ce week-end sur Europe 1. Ce soir, de 19h à 20h,
Laurie Choleva parle cinéma avec Artus,
réalisateur du film Un petit truc en plus,
en salle mercredi prochain. Demain, de 20h à 21h,
Jacques Vendroux reçoit Sophie Lavaux,
première alpiniste française à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres.
Elle retrace son exploit dans le documentaire Le dernier sommet,
prochainement sur Canal+. Et de 21h à 22h,
terminez votre week-end en musique
avec Joe Hume.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendid réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Ravenne. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Ravenne, au livre de poche.
On se retrouve après It's a Heartache de Bonnie Tyler.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Till your arms break.
C'était It's a Heartache de Bonnie Tyler.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
De 15h à 16h, Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, après Galilée, je vous raconte le procès de Jeanne d'Arc. Dans un instant, elle va monter sur le bûcher, mais une chose étrange va bouleverser les témoins de cette scène. Du 21 février au 3 mars 1431, les premiers interrogatoires de Jeanne ont lieu en public. La jeune fille, qui ne connaît pas le latin, est interrogée en français. Imaginez le tableau. D'un côté, une quarantaine de juges et assesseurs, des théologiens pour la plupart, et de l'autre, Jeanne d'Arc, 19 ans, paysanne, probablement illettrée. Elle est seule, sans avocat, face à ses spécialistes du droit. Elle se tient droite, sans baisser les yeux, les pieds entravés par des chaînes. Elle porte encore des habits masculins. Elle a les cheveux courts, taillés en rond, selon une coupe masculine en vogue à l'époque. C'est ce qu'on appelle la coupe au bol aujourd'hui. Dans la chapelle royale du château de Rouen, elle est seule face à tous ces hommes savants, cultivés et intelligents. Et pourtant, ils la craignent pour la plupart. Ils la craignent parce qu'ils ne comprennent pas comment elle a pu faire ce qu'elle a fait. Faire sacrer le roi, diriger des hommes de guerre, gagner des batailles pour bouter les Anglais hors de France. C'est impossible qu'une jeune paysanne accomplisse de tels actes. C'est surnaturel, donc. C'est l'œuvre de Dieu. Ou du diable. Et beaucoup penchent pour le diable. Jeanne est une sorcière, c'est évident pour ces messieurs qui lui demandent même où elle cache sa mandragore. C'est une plante très utile en magie noire, dont les racines peuvent évoquer la forme d'un bonhomme, enfin avec un petit peu d'imagination. L'évêque Cochon lui demande de jurer, les deux mains sur les évangiles, qu'elle répondra la vérité à toutes les questions qu'on lui posera. Jeanne répond qu'à certaines choses, elle ne répondra pas. L'évêque insiste. Alors la jeune femme promet qu'elle répondra à tout, mais qu'elle ne dira rien sur les voix qu'elle a entendues et rien non plus sur sa mission divine dont elle n'a parlé qu'au roi Charles VII. Pourtant, au fil du procès, elle va en dire beaucoup, et même de plus en plus sur ses voix. Une petite précision au sujet de ses voix. Au XVe siècle, personne ne met en doute le fait qu'elle les ait entendues. Ce qui pose problème à l'époque, c'est leur provenance. Jeanne affirme qu'elles expriment la volonté divine. Mais ses accusateurs pensent qu'elles émanent du diable. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous en conviendrez. Pour résumer, tous ces messieurs qui font face à Jeanne la détestent. Elle est sortie de sa condition de femme, de paysanne, elle prétend être envoyée par Dieu et maintenant, elle leur tient tête. Certains sont même fous de rage. L'un d'entre eux, un certain Jean Massier, a permis à Jeanne de s'agenouiller dans une chapelle pour prier. C'est plus que ce que le théologien Jean d'Estivet peut supporter. Il empoigne Massier par le col en lui hurlant qu'il n'a pas à laisser cette putain excommuniée entrer dans une église. Que si jamais il recommence, il le fera enfermer dans une tour d'où il ne verra ni la lune ni le soleil. Jeanne est-elle impressionnée par ces hommes de Dieu qui la jugent ? Pas du tout. Elle répond ce qu'elle a toujours répondu et ne varie jamais. Elle est sûre d'elle. Et elle affirme, je cite, « Je sais que mon roi gagnera le royaume de France. Je le sais aussi bien que vous êtes devant moi, siégeant au tribunal. » Elle menace même ces messieurs qui doivent se garder de mal la juger, sinon ils auront à rendre des comptes à Dieu. Jeanne est une force de la nature qui a guerroyé par tous les temps. Pourtant, dans ce château insalubre, elle tombe malade. Les Anglais font venir le médecin. Ils ne veulent pour rien au monde qu'elle meure de mort naturelle. Ils l'ont payé trop cher pour ça. Ils veulent qu'elle soit reconnue hérétique et finisse sur le bûcher. Il faut donc la soigner, et vite. Le procès se poursuit et les juges demandent à Jeanne de revenir encore sur ses affirmations, mais elle refuse. Elle refuse notamment d'affirmer que ses voix ne sont que les fruits de son imagination. Elle prétend même avec insolence que sur le bûcher, elle n'abjurera pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'évêque de Beauvais décide de passer à la vitesse supérieure. Il recourt à l'acte de foi. Jeanne doit désormais reconnaître solennellement ses erreurs en public et elle aura la vie sauve. Dans le cas contraire, elle périra sur le bûcher. Le 24 mai 1431, on l'emmène au cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen pour abjurer. Ce qui se passe alors n'est pas très clair. Mais on sait que l'évêque Cochon a bien préparé la scène. On conduit Jeanne près du bâtiment où l'on entasse les ossements retirés de la fosse commune. C'est un lieu absolument sinistre. Les juges sont présents, ainsi que de nombreux ecclésiastiques normands. Il y a aussi des représentants de l'Université de Paris, de hauts dignitaires du pouvoir anglais, comme l'évêque de Winchester et celui de Norwich. Il y a même William Hainwick, le secrétaire privé du jeune roi d'Angleterre. Jeanne, un cierge à la main, se tient tête baissée et pieds nus. On lui rappelle ses torts, on lui demande de rentrer dans le sein de l'Église, ce à quoi elle répond, comme elle l'a toujours fait, qu'elle s'en remet à l'autorité du pape. « Mais on va pas déranger le pape pour ça ! Abjure, sorcière, et il en sera fini de tes tourments !» C'est mal connaître Jeanne d'Arc. Non, elle n'abjurera pas. Alors on commence à lui lire la sentence. Elle sera brûlée le jour même sur la place du marché. Jeanne écoute, les yeux baissés, et tout à coup elle lève la tête. Elle affirme qu'elle accepte de reconnaître comme juste tout ce que l'Église et ses juges veulent qu'elle croie juste. Elle le reconnaît désormais. Elle n'aurait pas dû soutenir qu'elle a entendu des voix. C'est promis, elle ne le redira pas. Alors, on ne sait pas pourquoi elle abjure ainsi au dernier moment. Pour garder la vie sauve, peut-être. Toujours est-il que Jeanne accepte de reconnaître l'autorité de l'Église. Elle accepte aussi de porter désormais des vêtements féminins. Et elle signe d'une croix son abjuration puisqu'elle ne sait pas écrire. Grâce à ce revirement inattendu, elle sauve sa tête. Elle est seulement condamnée à la prison à perpétuité. Seuls les Anglais sont furieux puisqu'ils voient leur proie leur échapper. Mais dès le 28 mai, Jeanne porte à nouveau des vêtements masculins. Personne ne sait pourquoi ni qui les lui a fournis. Pour l'Église, c'est une rébellion ouverte. Jeanne est déclarée « relapse », c'est-à-dire qu'elle retombe dans l'erreur. Un deuxième procès s'ouvre aussitôt. Ses bourreaux n'attendaient que ça. Dès le 29 mai, elle est reconnue idolâtre, schismatique, apostate, menteuse, devineresse, hérétique et relapse. Jeanne est seule cette fois, abandonnée de tous. Le roi de France Charles VII n'intervient pas, le pape non plus. Aucune insurrection populaire n'éclate pour empêcher l'inéluctable. Elle est condamnée le 30 mai et elle est aussitôt brûlée vive en place publique. Ses cendres sont dispersées dans la Seine. 18 ans passent. Après plus de 30 ans d'occupation anglaise, la ville de Rouen est libérée par le roi de France Charles VII. Et dès 1450, il demande une enquête pour restaurer la bonne renommée de Jeanne. Le roi veut faire annuler le procès de 1431. Il veut faire disparaître le soupçon d'hérésie qui plane sur Jeanne, car c'est à elle qu'il doit son sacre. Pour Charles VII, tant que Jeanne est considérée comme hérétique, sa légitimité peut être contestée. Mais jamais dans toute l'histoire de l'Inquisition, un de ses jugements n'a été remis en cause. Seul le pape peut annuler un verdict d'Inquisition et réhabiliter Jeanne. On sollicite alors le pape Calixte III qui, en 1455, ordonne un procès en nullité. Ce procès est confié à nouveau à des hommes d'Église, mais pas les mêmes qu'en 1431. Ceux-là sont des proches du pouvoir royal français. L'accusée étant morte, de même que l'évêque Cochon, il faut trouver de nouveaux témoins. Ce sont pour beaucoup des juges qui ont siégé au cours du premier procès. Par exemple, il y a Thomas de Courcelles qui, à l'époque, a voté pour qu'on torture Jeanne, ce qui n'a pas eu lieu, soit dit en passant. Curieusement, de Courcelles ne se souvient de rien. Il a oublié. Il ne sait plus. Tous portent Jeanne au nu et affirment que ce qui est arrivé, c'est à cause des Anglais. C'est facile à présent qu'ils ont été chassés. Pour rétablir la réputation de Jeanne, des enquêteurs se rendent à Domrémy, son village natal, et en divers endroits où elle est passée, comme à Orléans et à Paris. On demande aux gens qui l'ont côtoyée ce qu'ils pensent d'elle, et tous affirment que c'était une personne pieuse, moralement irréprochable, aimant Dieu et son roi. Le 7 juillet 1456, à Rouen, la sentence qui a condamné Jeanne au bûcher est donc annulée. Elle est publiquement déchirée et la réhabilitation est proclamée sur la place du marché, à l'endroit même de son supplice. Alors, l'affaire Jeanne d'Arc est-elle terminée pour autant? Faisons un bond de 4 siècles dans le temps. Au XIXe siècle, on aime beaucoup le Moyen-Âge. À l'époque, dans la peinture et la littérature notamment, on imagine un Moyen-Âge obscur, fait de misère, de violence et d'injustice. La France, qui élabore alors son roman national, se cherche une histoire et des figures populaires pour incarner sa grandeur. Les républicains, souvent anticléricaux, ressortent l'histoire presque oubliée de Jeanne d'Arc pour démontrer la puissance et la malfaisance de l'Église.
Les historiens comme Jules Michelet transforment Jeanne en héroïne nationale. L'Église n'est pas en reste. Elle fait béatifier Jeanne en 1909, puis elle est canonisée en 1920 et devient peu après l'une des saintes patronnes de la France. Aujourd'hui, elle est l'un des personnages les plus célèbres de notre histoire, revendiquée par tous les partis politiques pour des raisons parfois diamétralement opposées. Mais tous sont d'accord sur au moins une chose, c'est une héroïne courageuse, prête à se sacrifier pour son pays. Le cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour une plongée inattendue dans la mafia avec Al Capone. À travers lui, c'est l'histoire de la crise de 1929 que je vais vous raconter de manière inédite et aussi son procès. Vous verrez qu'il n'est pas tombé pour ses crimes, mais pour une raison bien plus étonnante. Vous raconter des histoires, c'est mon plus grand plaisir. Est-ce que vous saviez qu'au cœur de l'histoire sort d'abord en podcast avant d'arriver sur vos ondes ? Vous avez un nouvel épisode tous les jours en podcast et c'est gratuit. Par exemple, si vous vous rendez sur la plateforme d'écoute dès aujourd'hui, vous pourrez écouter le grand récit que je consacre au discret dictateur portugais Salazar à l'occasion des 50 ans de la révolution des œillets. Mais ce n'est pas tout. Vous avez rendez-vous demain de 19h à 20h avec Nicolas Caro. Notre journaliste spécialiste des livres anime La Voix et Livres sur Europe 1 et demain dimanche 28 avril, il recevra Hervé Le Tellier et vous emmènera dans la bibliothèque de la navigatrice Isabelle Autissier. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver Sophie et les copains. Bon après-midi et bon week-end sur Europe 1.
On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Thomas, boucher à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous proposez à vos clients du bœuf exclusivement produit sur notre territoire. Pourquoi ?
Eh bien, parce que la viande bovine offre une grande variété gustative grâce à la richesse de nos régions et de nos terroirs.
Eh oui.
Vous connaissez la charolaise ou la limousine ?
Oui, bien sûr.
Bah, en réalité, il y a une quinzaine de races à viande.
D'accord.
On les reconnaît grâce à leur robe, mais surtout grâce à leur grain de viande.
Ah oui. Et ce sont les seules différences avec le bœuf étranger ?
Non, il y en a plein d'autres. Mais c'est surtout nos normes sanitaires qui sont parmi les plus rigoureuses.
J'imagine. Donc pour vous, vous approvisionner auprès de nos éleveurs, c'est une évidence.
Oui. Je sais que la viande que j'offre à mes clients n'a pas fait le tour du monde.
Oui.
Et puis je contribue à mon niveau à pérenniser ce beau métier d'éleveur et à soutenir une filière bovine engagée qui génère des emplois dans nos territoires.
Ça c'est très bien. Merci Thomas.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbef.fr, rubrique enjeux sociétaux.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi ?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collègues